Bonjour, je m'appelle Richard Chevalier, je travaille à l'IRSTEA de Nogent-sur-Vernisson. Alors, je me suis lancé sur un sujet, pas facile pour moi à traiter, mais qui est la similitude et les différences qu'il existe entre la peupleraie sauvage et la peupleraie cultivée, ou polyculture. Donc voici des illustrations dont je me suis entouré des conseils de co-auteurs, dont Marc Villard, ici présent, Alain Berthelot, ici présent, et aussi André Evette, un collègue d'IRSTEA. Alors cette réflexion, elle provient de ma participation en tant qu'IRSTEA à deux projets de recherche. Le premier qui a été mené entre 2006 et 2009 dans les vallées de Champagne, qui était centré. Bon, les deux projets sont des projets qui s'intéressent à la biodiversité. Hein, moi, je suis botaniste. Donc, le premier projet des vallées de Champagne, porté par Alain Berthelot, et qui était centré sur le peuplier de culture. Et en 2000, 10 ans plus tard, le projet BioMaraud 2, porté par Marc Villard. Qui s'intéressait, lui, plutôt aux peupleraies sauvages dans un contexte de recolonisation de la biodiversité après travaux d'entretien du lit de la Loire. Alors, peuplier sauvage, peuplier cultivé, de quoi parlons-nous? Bon, je me sens obligé un petit peu de dire de quoi il s'agit. Le peuplier fait partie de la famille des salicacées, qui compte deux genres, genre salix et genre populus. Alors, pour le genre populus qui nous intéresse ici, nous avons trois taxons indigènes en France, le tremble et le peuplier blanc, qui sont des peupliers plutôt forestiers, et le peuplier noir dans sa variété nigra, qui est celui qui nous intéresse ici en tant que peuplier sauvage. Et pour les peupliers cultivés, il existe un grand nombre de cultivars apparentés exogènes. Alors un des plus connus est le peuplier noir, c'est dans sa variété Italica, qui est en fait un clone, peuplier fastigier en forme de bougie, utilisé à des fins horticoles. Il y a eu aussi des peupliers américains qui ont été utilisés, dont des cultivars deltoïdes ou des baumiers. Mais ce qui nous intéresse ici, en tant que peupliers cultivés, nous entendons les peupliers euraméricains, dont deltoïdes et peupliers noirs, et interaméricains, dont baumiers et deltoïdes. Les salicacées sont des espèces pionnières, très, très caractéristiques, dont parmi les traits, les caractéristiques, ce sont des espèces exigeantes en lumière, sensibles à la concurrence, qui ont une faible longévité, entre guillemets, parce que ça peut quand même durer, un peuplier sauvage peut vivre assez longtemps. La croissance est rapide, le bois est blanc et tendre, grosse production de graines, là on le voit dans leur coton, et une forte capacité de dispersion. Alors les peupliers, qu'ils soient cultivés ou sauvages, tels qu'on les a définis, ils sont particulièrement exigeants en eau et en nutriments. Bon, on en a déjà parlé ce matin, et ils ont un grand développement. Alors ça signifie la conséquence, une forte productivité, mais aussi lié au caractère pionnier, une dynamique dendrologique rapide. Donc là, on entre dans les questions de dynamique, de succession. Alors, le peuplier sauvage, sa caractéristique, et moi je l'ai découvert assez tardivement, c'est une espèce qui se met dans une position de succession primaire. Alors, une succession primaire, c'est quelque chose d'assez particulier, qu'on a la chance d'observer, par exemple, en Loire moyenne, c'est que le stade pionnier s'installe sur un substrat neuf, qu'il y a une modification du biotope au cours de cette succession, et que, normalement, cette succession primaire laisse la place à une succession secondaire. Alors, je vais essayer de vous illustrer ça de façon, certes simplifiée. Donc là, c'est l'exemple des îles de Marot en Loire moyenne. Alors, nous avons ici la force de l'eau, la dynamique, la force de l'eau qui érode les berges et les îles. Donc, il y a du sable qui se dépose et qui forme des îles en aval. Si les conditions sont favorables, les salicacées s'installent et le peuplier noir est un grand acteur de cette dynamique. Et ils se développent et au bout d'un certain temps, eh bien, ils dépérissent et ils laissent la place à la forêt à bois dur composée d'ormes, de frênes et de chênes. Bon, ça, c'est ce qui se passe en situation totalement naturelle. Alors, la régénération, bien sûr, se fait par semis naturels. La rotation, alors je ne sais pas si on va parler de rotation, mais en gros, cette succession primaire dure entre 30 et 70 ans. Et la particularité, bon, on est en succession primaire, c'est qu'il y a une accumulation de sédiments entre ce stade-là et celui-là, c'est-à-dire il y a 2 à 3 mètres de sable qui s'accumulent. Et beaucoup de personnes l'ignorent, cet aspect-là. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est que il peut y avoir une réinitialisation, c'est-à-dire ça ne marche pas à tous les coups, il n'y a pas une succession secondaire derrière, c'est-à-dire liée à la perturbation des crues, il peut y avoir une réinitialisation qui est d'autant plus fréquente que les peuplements sont jeunes, parce qu'ils sont plus soumis aux crues. Donc, en populiculture, bon, on en a déjà parlé, le terrain de prédilection, c'est la vallée alluviale et les terrains alluviaux fertiles. La position dans la dynamique, si on devait mettre la populiculture sur une succession de forêts sauvages, elle serait un petit peu elle serait au stade post-pionnier, c'est-à-dire au moment où s'installent les bois durs. Donc on est un petit peu décalé par rapport à la situation naturelle. Alors il y a certains problèmes à surmonter, mais bon, on voit qu'on sait très bien faire ça. Il y a le problème de l'installation, là, hors de question de compter sur des germinations. Donc on contourne le problème en plantant des boutures et on parle de plançons et on les plante assez profond pour compenser le fait de la sédimentation. Après, il y a un autre problème, c'est la concurrence. Il faut lutter contre la végétation concurrente, parce que normalement, c'est plutôt des feuillus à bois dur qui s'installent à ce moment-là. Et pour ça, on fait, on l'a dit, un travail du sol, un désherbage, contrôle des ligneux, et puis surtout des rotations courtes qui empêchent la succession de se poursuivre. Donc, on bloque artificiellement la succession. Et à la charnière des stades pionniers et post-pionniers. C'est assez adroit parce que c'est des conditions optimales pour la production. Et on ne court pas, puisqu'on est à des niveaux topographiques un petit peu plus haut, en général, de gros dégâts par les crues. Parce que les crues, ça. Bon, ça. Comment dire ça, ça coupe les arbres, il y a des embâcles, etc. En général, en populiculture, ça peut arriver, mais on est assez exempt de ces problèmes-là. Alors, pour l'itinéraire, bon, bien sûr, la régénération, elle est artificielle. Donc, en général, c'est des plantations monoclonales, on l'a dit. Donc, un arbre planté égale, en général, un arbre récolté, si tout se passe bien. La rotation bon, fourchette large de 10 à 25 ans. La réinitialisation se fait par l'exploitation forestière. Et il y a faible accumulation de sédiments. De toute façon, c'est quelques centimètres, millimètres, mais ce n'est pas des mètres. Alors bon, cette populiculture, on peut la décliner, je sais, c'est très caricatural, en deux variantes. Une variante intensive où on contrôle la végétation un peu plus longtemps, et une variante plutôt extensive avec un arrêt précoce des entretiens. Mais dans ces conditions-là, pour avoir les mêmes quantités de bois, on doit couper les arbres un petit peu plus tard. Alors bon, on vient de voir que peupleraie sauvage et peupleraie cultivée, c'est deux choses très différentes, mais il existe des passerelles. Le peuplier sauvage, il pourrait être cultivé sur les mêmes terrains que les peupliers cultivés, avec les mêmes techniques plus poplicoles. Il suffirait de planter des plants, mais bien sûr, on aurait une moindre productivité et qualité du bois. Et on a vu ce matin que c'était quand même des critères très, très importants pour la filière. Les peupleraies cultivées, quant à elles, elles peuvent rejoindre la succession naturelle, hein, c'est-à-dire si on arrête le travail du sol assez tôt et le contrôle des ligneux, les bois durs, ils y vont, ils s'installent. Et lors des travaux menés en Champagne-Ardenne, on s'est même rendu compte que la peuplerie, finalement, facilitait l'installation des bois durs. C'est un processus naturel. Au départ, je n'avais pas compris, mais maintenant, avec le recul, je comprends mieux pourquoi, avec le positionnement dans la succession. Ça peut même être un outil, par exemple, si on veut connecter des forêts alluviales anciennes, on a probablement intérêt à les relier avec des peupleraies sous lesquelles on laisse s'installer des arbres indigènes. Alors, voici un petit tableau synthétique hein, dont on vient de voir. Qui compare la peuplerie sauvage et la peuplerie cultivée. On voit déjà que ça se fait pas concurrence au niveau de l'espace, puisque la peuplerie sauvage, c'est vraiment limiter les greffes sédimentaires des fleuves et rivières, alors que la peuplerie cultivée, elle occupe la vallée au sens large. Bien sûr, les peuplerie sauvage, ce sont des habitats à grande valeur patrimoniale, puisqu'ils correspondent à des habitats Natura 2000, étoiles, ça veut dire prioritaires, hein, soleil arborescente et peuplerie sèche. Et en plus, ils favorisent d'autres habitats que sont les mégaphorbia hydrophiles, c'est les formations aux grandes herbes. Et on vient de le voir, ça facilite les forêts alluviales à bois dur. Bon, la peuplerie cultivée, quant à elle, elle n'est pas patrimoniale au sens strict, mais elle favorise tout de même l'habitat de mégaphorbiaies, comme la peuplerie sauvage. Et sous condition, on voit qu'elle peut faciliter la forêt alluviale à bois dur. Alors, pour les surfaces, alors là, c'est uniquement pour les vallées alluviales. J'ai ciblé le contexte. On est à moins de 20 000 hectares. On n'a pas de très bons chiffres. J'ai questionné nos collègues de l'IGN. On a réussi à sortir ça. Par contre, un peuplerie cultivée, on est à environ 5 000 hectares en forêt, en milieu alluvial. Pour la récolte de bois, la peuplerie sauvage, eh bien, elle n'est pas cultivée, hein. C'est la mortalité naturelle, les dégâts par les crues, les castors et les travaux d'entretien du lit. Alors que le peuplier cultivé, alors là, Alain m'avait donné les chiffres pour 2017, 1,4 million de mètres cubes de bois d'œuvre en 2017, plus de 7% de la récolte annuelle à bois d'œuvre, ça commence à être conséquent. Donc l'enjeu principal, on l'a compris, ici, il est plutôt écologique et ici, il est plutôt économique. Alors, bien sûr, il y a eu des programmes de sélection, amélioration génétique qui vont avec ces préoccupations, Marc Villard a notamment contribué à créer des variétés en mélange clonal, c'est-à-dire dans un bassin alluvial, on va chercher des individus et on fait un mélange de clones pour respecter optimiser la diversité génétique. Et d'un point de vue économique, en populiculture, eh bien, on adapte les cultivars aux problèmes au fur et à mesure que la populiculture les rencontre. Il y a quand même un petit problème qui est conséquent, c'est que d'un point de vue interaction, c'est que les peuplerais cultivés peuvent polluer génétiquement les peupleraies sauvages. Alors le cas le plus connu, le plus ennuyé, le plus préoccupant est celui du peuplier noir d'Italie, dans sa variété Italica. Je ne vais pas m'étendre sur les chiffres, mais on a des taux d'hybridation qui commencent à être conséquents. Le problème existe aussi pour les clones nord-américains, mais on sait qu'il est moindre. Et la recherche a aussi mis en évidence une efficacité de reproduction qui dépendait du sens du croisement. Alors, pour limiter ce problème, la préconisation serait de planter plutôt des cultivars américains, euro-américains de sexe mâle, et bien sûr d'augmenter la surface des peupleraies sauvages ou en variété multiclonale dans le paysage pour diluer l'effet. Pour les intérêts américains, bon, l'état des connaissances est pas assez avancé, on ne sait pas. Alors pour conclure, dans le contexte des milieux alluviaux, alors bon, les milieux alluviaux qui nous intéressent ici, c'est 9% du territoire et moins de 4% de la superficie boisée française, mais les enjeux, bon, qu'ils soient écologiques, économiques et sociaux, sont vraiment importants. Et la forêt alluviale est menacée. Comme beaucoup de zones de milieux naturels ou humides. Donc dans les années 80, on a eu la graphiose de l'orme qui a décimé les ormes. Dans les années 2000, bon, l'aulne a été attaqué aussi par une maladie. Et aujourd'hui, on a vraiment du souci à se faire avec la chalarose du frêne qui est en train de se développer dans les vallées. Et bon, on en discutait tout à l'heure, les peupleraies, le peuplier finalement se porte finalement assez bien. Et dans nos vallées, il est principalement en monoculture intensive, et bon, on l'a déjà dit, mal aimé des naturalistes. Et les rares peupleraies sauvages, elles sont laissées en évolution libre et bien souvent ignorées des forestiers vu de leur contexte particulier. Alors, dans ce contexte global de la vallée alluviale, les salicacées, à mon avis, auront un grand rôle à jouer parce qu'elles sont importantes dans la dynamique forestière, que ce soit sous forme cultivée ou sauvage. Mais il y a des enjeux à ne pas oublier, c'est l'enjeu de conservation des ressources génétiques autochtones. Alors bon, pour le peuplier noir, il y a un beau programme mené par Marc Villard à l'INRA, mais sur les sols, je crois qu'il n'y a pas grand-chose, c'est bien dommage. Donc, insister sur le rôle de facilitation de ces salicacées pour maintenir la forêt alluviale à bois dur dans le paysage. Et ça impose de bien comprendre les mécanismes de succession forestière. C'est pas que de la technique. Il faut comprendre écologiquement comment ça fonctionne pour faire à certains moments les bons choix. Et bon, ma proposition qui rejoint un petit peu celle de l'exposé précédent, hein, ce serait d'optimiser la complémentarité et l'agencement des différents faciès de peupleraies sauvages et cultivées. Dans le paysage alluvial. Bon, ça paraît simple comme ça, mais c'est assez compliqué. Voilà, et pour conclure, je dirais que l'opposition entre peupliers cultivés et peupliers sauvages, c'est dommage qu'elle soit si forte aujourd'hui. J'espère que dans le futur, il y aura des passerelles et qu'on intégrera mieux les choses. Je vous remercie de votre attention.